Chapitre 1er. Le cabaret du pont de Sèvres, Maître Gamin. Si le lecteur veut bien se reporter un instant à notre roman d'Ange Pitou, et ouvrant le roman au second volume, jeter un instant les yeux sur le chapitre intitulé « La nuit du 5 au 6 octobre », il y retrouvera quelques faits qui n'est point sans importance qu'il se remette en mémoire avant de commencer ce livre, qui s'ouvre lui-même dans la matinée du 6 du même mois. Après avoir cité nous-mêmes quelques lignes importantes de ce chapitre, nous résumerons les faits qui doivent précéder la reprise de notre récit dans le moins de paroles possible. Ces lignes, les voici. À 3 heures, comme nous l'avons dit, tout était tranquille à Versailles. L'assemblée elle-même, rassurée par le rapport des huissiers, s'était retirée. On comptait bien que cette tranquillité ne serait pas troublée. On comptait mal. Dans presque tous les mouvements populaires qui préparent les grandes révolutions, il y a un temps d'arrêt pendant lequel on croit que tout est fini et que l'on peut dormir tranquille. On se trompe. Derrière les hommes qui font les premiers mouvements, il y a ceux qui attendent que les premiers mouvements soient finis et que, fatigués ou satisfaits, mais dans l'un et l'autre cas ne voulant pas aller plus loin, ceux qui ont accompli ce premier mouvement se reposent. C'est alors qu'à leur tour, ces hommes inconnus, mystérieux agents de passion fatale, se glissent dans les foules, reprennent le mouvement où il a été abandonné, et le poussant jusqu'à ses dernières limites, épouvantent à leur réveil ceux qui leur ont ouvert le chemin et qui s'étaient couchés à la moitié de la route, croyant la route faite, croyant le but atteint. Nous avons nommé 3 de ces hommes dans le livre auquel nous empruntons les quelques lignes que nous venons de citer. Qu'on nous permette d'introduire sur notre scène, c'est-à-dire à la porte du cabaret du pont de Sèvres, un personnage qui, pour n'avoir pas encore été nommé par nous, n'en avait pas moins joué pour cela un rôle moindre dans cette nuit terrible. C'était un homme de 45 à 48 ans, vêtu en ouvrier, c'est-à-dire d'une culotte de velours garantie par un tablier de cuir à poche, comme les tabliers des maréchaux ferrants et des serruriers. Il était chaussé de bas gris et de souliers à boucles de cuivre, coiffé d'une espèce de bonnet à poils ressemblant à un bonnet de hulan coupé par la moitié. Une forêt de cheveux grisonnants s'échappait de dessous ce bonnet pour se joindre à d'énormes sourcils et ombrager de compte à demi avec eux de grands yeux à fleur de tête, vifs et intelligents, dont les reflets étaient si rapides et les nuances si changeantes qu'il était toujours difficile d'arrêter s'ils étaient verts ou gris, bleus ou noirs. Le reste de la figure se composait d'un nez, plutôt fort que moyen, de grosses lèvres, de dents blanches et d'un teint hâlé par le soleil. Sans être grand, cet homme était admirablement pris dans sa taille. Il avait les attaches fines, le pied petit, et l'on eût pu voir aussi qu'il avait la main petite et même délicate si la main n'eût été teintée de bronze comme les ouvriers habitués à travailler le fer. Mais en remontant de cette main au coude et du coude jusqu'à l'endroit du bras où la chemise retroussée laissait voir le commencement d'un muscle vigoureusement dessiné, on eût pu remarquer que, malgré la vigueur de ce muscle, la peau qui le recouvrait était fine, mince, presque aristocratique. Cet homme, debout à la porte du cabinet du pont de Sèvres, avait apporté de sa main un fusil à 2 coups, richement incrusté d'or, sur le canon duquel on pouvait voir le nom de Leclerc, armurier, qui commençait à avoir une grande vogue dans l'aristocratie des chasseurs parisiens. Peut-être nous demandera-t-on comment une si belle arme se trouvait entre les mains d'un simple ouvrier. À ceci nous répondrons qu'au jour des meutes, et nous en avons vu quelques-uns, Dieu merci, ce n'est pas toujours aux mains les plus blanches que se trouvent les plus belles armes. Cet homme était arrivé de Versailles, il y avait 1 heure à peu près, et savait parfaitement ce qui s'était passé. Car aux questions que lui avait faites l'aubergiste en lui servant une bouteille de vin qu'il n'avait même pas entamée, il avait répondu que la reine venait avec le roi et le dauphin, qu'ils étaient partis vers midi à peu près, qu'ils étaient enfin décidés à habiter le palais des Tuileries, ce qui faisait qu'à l'avenir Paris ne manquerait probablement plus de pain puisqu'il allait posséder le boulanger, la boulangère et le petit mitron, et que lui attendait pour voir passer le cortège. Cette dernière assertion pouvait être vraie, et cependant il était facile de remarquer que son regard se tournait plus curieusement du côté de Paris que du côté de Versailles, ce qui donnait lieu de croire qu'il ne s'était pas cru obligé de rendre un compte bien exact de son intention au digne aubergiste qui s'était permis de la lui demander. Au bout de quelques instants, du reste, son intention parut satisfaite. Un homme vêtu à peu près comme lui et paraissant exercer une profession analogue à la sienne se dessina au haut de la montée qui bornait l'horizon de la route. Cet homme marchait d'un pas alourdi et comme un voyageur qui a déjà fait un long chemin. À mesure qu'il approchait, on pouvait distinguer ses traits et son âge. Son âge pouvait être celui de l'inconnu, c'est-à-dire que l'on pouvait affirmer hardiment, comme disent les gens du peuple, qu'il était du mauvais côté de la quarantaine. Quant à ses traits, c'étaient ceux d'un homme du commun, aux inclinations basses, aux instincts vulgaires. L'œil de l'inconnu se fixa curieusement sur lui, avec une impression étrange, et comme s'il eût voulu mesurer, par un seul regard, tout ce que l'on pouvait tirer d'impur et de mauvais du cœur de cet homme. Quand l'ouvrier, venant du côté de Paris, ne fut plus qu'à une vingtaine de pas du personnage qui attendait sur la porte, celui-ci rentra, versa le premier vin de la bouteille dans un des deux verres placés sur la table, et, revenant à la porte, ce verre à la main élevé, Eh, camarade, dit-il, le temps est froid, la route est longue. Est-ce que nous ne prenons pas un verre de vin pour nous soutenir et nous réchauffer? L'ouvrier, venant de Paris, regarda autour de lui comme pour voir si c'était bien à lui que s'adressait l'invitation. C'est à moi que vous parlez? Demanda-t-il. À qui donc, s'il vous plaît, puisque vous êtes seul? Et vous m'offrez un verre de vin? Pourquoi pas? Ah, est-ce qu'on n'est pas du même métier ou à peu près? L'ouvrier regarda une seconde fois l'inconnu. Tout le monde, dit-il, peut être du même métier. L'important est de savoir si, dans le métier, on est compagnon ou maître. Eh bien, c'est ce que nous vérifierons en prenant un verre de vin et en causant. Allons, soit, dit l'ouvrier, en s'acheminant vers la porte du cabaret. L'inconnu lui montra la table et lui désigna le verre. L'ouvrier prit le verre en regardant le vin, comme s'il eût conçu pour lui une certaine défiance qui disparut lorsque l'inconnu se fut versé un second verre de liquide, bord à bord comme le premier. Eh bien, demanda-t-il, est-ce qu'on est trop fier pour trinquer avec celui que l'on invite? Non, ma foi, au contraire, à la nation. Les yeux gris de l'ouvrier se fixèrent un moment sur celui qui venait de porter ce toast. Puis il répéta, parbleu, oui, vous dites bien, à la nation. Et il avala le contenu du verre tout d'un trait. Après quoi, il essuya ses lèvres avec sa manche. Fit-il, c'est du Bourgogne. Et du Chenu, hein? On m'a recommandé le bouchon. En passant, j'y suis venu et je ne m'en repens pas. Mais asseyez-vous donc, camarade. Il y en a encore dans la bouteille, et quand il n'y en aura plus dans la bouteille, il y en aura encore à la cave. Ah ça, dit l'ouvrier, mais que faites-vous donc là? Vous le voyez, je viens de Versailles et j'attends le cortège pour l'accompagner à Paris. Quel cortège? Eh, mais celui du roi, de la reine et du dauphin qui reviennent à Paris en compagnie des dames de la halle et de 200 membres de l'assemblée sous la protection de la garde nationale et de monsieur Lafayette. Il s'est donc décidé à aller à Paris, le bourgeois? Il a bien fallu. Ah, je me suis douté de cela cette nuit à 3 heures du matin quand je suis parti pour Paris. Ah, vous êtes parti cette nuit à 3 heures du matin et vous avez quitté Versailles comme cela, sans curiosité de savoir ce qui allait s'y passer. Oh, si fait, j'avais bien quelque envie de savoir ce que deviendrait le bourgeois, d'autant plus que, sans me vanter, c'est une connaissance, mais vous comprenez, l'ouvrage avant tout. On a une femme et des enfants, il faut nourrir tout cela, surtout maintenant qu'on n'aura plus la forge royale. L'inconnu laissa passer les deux allusions sans les relever. C'était donc de la besogne aisée que vous êtes allé faire à Paris, insista-t-il. Oh, ma foi, oui, s'il paraît, et bien payé, ajouta l'ouvrier en faisant sonner quelques écus dans sa poche. Quoi qu'elle m'ait été payée, tout simplement par un domestique, ce qui n'est pas poli, et encore par un domestique allemand, ce qui fait qu'on n'a pas pu causer le moindre brin. Vous ne détestez pas causer, vous? Ah, dame, quand on ne dit pas de mal des autres, ça distrait. Et même quand on en dit, n'est-ce pas? Les deux hommes se mirent à rire, l'inconnu en montrant ses dents blanches, l'ouvrier en montrant ses dents gâtées. Ainsi donc, reprit l'inconnu, comme un homme qui avance pas à pas, c'est vrai, mais que rien ne peut empêcher d'avancer, vous avez été faire de la besogne pressée et bien payée. Oui, parce que c'était de la besogne difficile, sans doute. Difficile, oui. Une serrure à secret, hein. Une porte invisible. Imaginez-vous une maison dans une maison. Quelqu'un qui aurait intérêt à se cacher, n'est-ce pas? Eh bien, il y est ou il n'y est pas. On sonne, le domestique ouvre la porte. Monsieur, il n'y est pas. Si fait, il y est. Eh bien, cherchez. On cherche. Bonsoir. Je défie bien qu'on trouve monsieur. Une porte en fer, comprenez-vous, qu'emboîte une moulure ricarac. On va passer une couche de vieux chêne par-dessus tout ça. Impossible de distinguer le bois du fer. Oui, mais en frappant dessus, pas une couche de bois sur le fer mince d'une ligne, mais juste assez épaisse pour que le son soit le même partout. Tac, 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 tac. Voyez-vous, la chose finie, moi-même je m'y trompais. Et où diable avez-vous été faire cela? Ah, voilà. Qu'est-ce que vous ne voulez pas dire? Ce que je ne veux pas dire, attendu que je ne sais pas. On vous a donc bandé les yeux. Ah, justement, j'étais attendu avec une voiture à la barrière. On m'a dit, êtes-vous un tel? J'ai dit, oui. Bon, c'est vous que nous attendons. Montez. Il faut que je monte. Oui. Je suis monté. On m'a bandé les yeux. La voiture a roulé une demi-heure à peu près. Et puis une porte s'est ouverte, une grande porte. J'ai heurté la première marche d'un perron. J'ai monté 10 degrés. Je suis entré dans un vestibule. Là, j'ai trouvé un domestique allemand qui a dit aux autres, cette pien, allez, foussant, on n'a plus besoin de fou. Les autres s'en sont allés, on m'a défait mon bandeau, et il m'a montré ce que j'avais à faire. Je me suis mis à la besogne, en bon ouvrier. À 1 heure, c'était fait. On m'a payé en beaux louis d'or, on m'a rebandé les yeux, remis dans la voiture, redescendu au même endroit où j'étais monté, on m'a souhaité bon voyage, et me voilà. Sans que vous ayez rien vu, même du coin de l'œil. Que diable! Un bandeau n'est pas si serré qu'on ne puisse guigner à droite ou à gauche. Allons donc, allons donc. Avouez que vous avez vu, dit vivement l'étranger. Voilà. Quand j'ai fait un faux pas contre la première marche du perron, j'ai profité de cela pour faire un geste, et en faisant ce geste, j'ai un peu dérangé le bandeau. Et en dérangeant le bandeau, dit l'inconnu avec la même vivacité, j'ai vu une ligne d'arbres à ma gauche, ce qui m'a fait croire que la maison était sur le boulevard, mais voilà tout. Voilà tout? Oh, ça, parole d'honneur! Ça ne dit pas beaucoup. Attendu que les boulevards sont longs et qu'il y a plus d'une maison avec grande porte et perron, du café Saint-Honoré à la Bastille. De sorte que vous ne reconnaîtriez pas la maison. Le serrurier réfléchit un instant. Oh, non, ma foi, dit-il, je n'en serais pas capable. L'inconnu, quoique son visage ne parût dire d'habitude que ce qu'il voulait bien lui laisser dire, parut assez satisfait de cette assurance. Ah, ça m'est, dit-il tout à coup, comme passant à un autre ordre d'idée. Il n'y a donc plus de serrurier à Paris que les gens qui y font faire des portes secrètes envoient chercher des serruriers à Versailles. Et en même temps, il versa un plein verre de vin à son compagnon en frappant sur la table avec la bouteille vide, afin que le maître de l'établissement apportât une bouteille pleine. Le serrurier leva son verre à la hauteur de son œil, mira le vin avec complaisance, puis le goûtant avec satisfaction. Si fait, dit-il, il y a des serruriers à Paris. Il but encore quelques gouttes. Il y a même des maîtres. Il but encore. C'est ce que je me disais. Oui, mais il y a maître et maître. Ah, fit l'inconnu en souriant, je vois que vous êtes comme Saint-Éloi, non seulement maître, mais maître sur maître. Et maître sur tous. Vous êtes de l'État? À peu près. Et qu'êtes-vous? Je suis armurier. Avez-vous là de votre besogne? Voyez ce fusil. Le serrurier prit le fusil des mains de l'inconnu, l'examina avec attention, fit jouer les ressorts, approuva d'un mouvement de tête le claquement sec des batteries, Et puis, lisant le nom inscrit sur le canon et sur la platine, « Leclerc, dit-il, impossible, l'ami, Leclerc a 28 ans tout au plus, et nous marchons tous les deux vers la cinquantaine, soit dit, sans vous être désagréable. « C'est vrai, dit-il, je ne suis pas Leclerc, mais c'est tout comme. »« Comment c'est tout comme ?»« Mais sans doute, puisque je suis son maître. » « Ah bon ?» s'écria en riant le serrurier. « C'est comme si je disais, moi, je ne suis pas le roi, mais c'est tout comme. »« Comment c'est tout comme ?» répéta l'inconnu. « Eh oui, puisque je suis son maître, » dit le serrurier. « Oh !» fit l'inconnu en se levant et en parodiant le salut militaire. « Serait-ce à Monsieur Gamin que j'ai l'honneur de parler ?»« À lui-même en personne, et pour vous servir, si j'en étais capable, » dit le serrurier, enchanté de l'effet que son nom avait produit. « Diable !» dit l'inconnu, « je ne savais pas avoir affaire à un homme si considérable. »« Hein ? À un homme si considérable ?» répéta l'inconnu. « Si conséquent, vous voulez dire ?» oui, pardon, reprit en riant l'inconnu, mais vous le savez, un pauvre armurier ne parle pas français comme un maître, et quel maître, le maître du roi de France. Et puis, reprenant la conversation sur un autre ton, dites donc, ça ne doit pas être amusant d'être le maître du roi. Pourquoi cela? Dame, quand il faut prendre éternellement des mitaines pour dire bonjour ou bonsoir, non. Mais quand il faut dire « Votre Majesté, prenez cette clé de la main gauche, sire, prenez cette lime de la main droite. » Justement, voilà où était le charme avec lui, car il était bon homme au fond, voyez-vous. Une fois, dans la forge, quand il avait le tablier devant lui et les bras de chemise retroussés, on n'aurait jamais dit « le fils aîné de Saint-Louis », comme il l'appelle. En effet, vous avez raison, c'est extraordinaire comme un roi ressemble à un autre homme. Oui, n'est-ce pas? Il y a longtemps que ceux qui les approchent se sont aperçus de cela. Oh, ce ne serait rien s'il n'y avait que ceux qui les approchent qui s'en soient aperçus, dit l'inconnu en riant d'un rire étrange, mais ce sont ceux qui s'en éloignent surtout, qui commencent à s'en apercevoir. Gamin regarda son interlocuteur avec un certain étonnement, mais celui-ci, qui avait déjà oublié son rôle en prenant un mot pour un autre, ne lui donna pas le temps de peser la valeur de la phrase qu'il venait de prononcer, et, faisant retour à la conversation, « Raison de plus, dit-il, un homme comme un autre, qu'il faut appeler sire et majesté, moi je trouve cela humiliant. » « Mais c'est qu'il ne fallait pas l'appeler sire ni majesté. Une fois dans la forge, il n'y avait plus de tout cela. Je l'appelais bourgeois, il m'appelait gamin, seulement je ne le tutoyais pas, et il me tutoyait. » « Oui, mais lorsqu'arrivait l'heure du déjeuner ou du dîner, on envoyait gamin dîner à l'office avec les gens, avec les laquais. « Non pas, oh non pas, il n'a jamais fait cela, au contraire, il me faisait apporter une table toute servie dans la forge, et souvent, au déjeuner surtout, il se mettait à table avec moi et disait « Bah, je n'irai pas déjeuner chez la reine, cela fait que je n'aurai pas besoin de me laver les mains. » « Je ne comprends pas bien. » Vous ne comprenez pas que, quand le roi venait de travailler avec moi, de manier le fer, par Dieu, il avait les mains comme nous les avons, quoi, ce qui ne nous empêche pas d'être d'honnêtes gens, de sorte que si la reine lui disait, avec son petit air bégueule, « Fille, sire, vous avez les mains sales », comme si on pouvait avoir les mains propres quand on vient de travailler à la forge. Oh, « Ne m'en parlez pas, dit l'inconnu, ça fait pleurer. » Voyez-vous, en somme, il ne se plaisait que là, cet homme, ou dans son cabinet de géographie, avec moi ou avec son bibliothécaire, mais je crois que c'était encore avec moi qu'il l'aimait le mieux. N'importe, il n'est pas amusant d'être le maître d'un mauvais élève. D'un mauvais élève ? S'écria Gamin. Oh non, il ne faut pas dire cela. Il est même bien malheureux, voyez-vous, qu'il soit venu au monde roi et qu'il ait eu à s'occuper d'un tas de bêtises comme celles dont il s'occupe, au lieu de continuer à faire des progrès dans son art. Ça ne fera jamais qu'un pauvre roi, il est trop honnête, et ça aurait fait un excellent serrurier. Il y en a un, par exemple, que j'exécrais pour le temps qu'il lui faisait perdre, c'était Monsieur Necker. Lui en a-t-il fait perdre du temps, bon Dieu, lui en a-t-il fait perdre? Avec ses comptes, n'est-ce pas? Ah oui, avec ses comptes bleus, ses comptes en l'air, comme on disait. « Eh bien, mais, mon ami, dites donc... »« Quoi ? Mais ça devait être une fameuse pratique pour vous, qu'un élève de ce calibre-là. Eh bien non, justement, voilà ce qui vous trompe, voilà ce qui fait que je lui en veux à votre Louis XVI, à votre père de la patrie, à votre restaurateur de la nation française. C'est qu'on me croit riche comme un Crésus et que je suis pauvre comme Job. Vous êtes pauvre, mais son argent, qu'en faisait-il donc? Bon, il en donnait la moitié aux pauvres et l'autre moitié aux riches, de sorte qu'il n'avait jamais le sou. Les Coigny, les Vaudreuil, les Polignac le rongeaient, pauvre cher homme. Un jour, il a voulu réduire les appointements de monsieur de Coigny. Monsieur de Coigny est venu l'attendre à la porte de la forge, de sorte qu'après être sorti 5 minutes, le roi est rentré tout pâle, en disant « Oh, ma foi, j'ai cru qu'il me battrait !» Et les appointements, sire, que je lui ai demandé, je les lui ai laissés, m'a-t-il répondu, le moyen de faire autrement. Un autre jour, il a voulu faire des observations à la reine, sur une layette de madame de Polignac, une layette de 300 000 francs, dites donc. C'est joli. Eh bien, ce n'était pas assez, la reine lui en a fait donner 500 000. Aussi, voyez, tous ces Polignac qui, il y a 10 ans, n'avaient pas le sou, les voilà qui viennent de quitter la France avec des millions. S'il y avait des talents encore, mais donnez-moi tous ces gaillards-là, une enclume et un marteau, ils ne seront pas capables de forger un fer à cheval. Donnez-leur une lime et un étau, ils sont incapables de fabriquer une vis de serrure. Mais en échange de beaux parleurs, des chevaliers, comme ils disent, qui ont poussé leur roi en avant et qui aujourd'hui le laissent se tirer de là comme il pourra avec monsieur Bailly, monsieur Lafayette et monsieur Mirabeau, tandis que moi qui lui aurais donné de si bons conseils, s'il eût voulu les écouter, il me laisse là avec 1 500 livres de rente qu'il m'a faite, moi son maître, moi son ami, moi qui lui ai mis la lime à la main. Oui, mais quand vous travaillez avec lui, il a toujours quelques revenants bons. Allons, est-ce que je travaille avec lui maintenant? D'abord, ce serait me compromettre. Depuis la prise de la Bastille, je n'ai pas mis le pied au palais. Une fois ou deux, je l'ai rencontré. La première fois, il y avait du monde dans la rue, il s'est contenté de me saluer. La seconde fois, c'était sur la route de Satory. Nous étions seuls, il a fait arrêter sa voiture. « Eh bien, mon pauvre gamin, bonjour » a-t-il dit avec un soupir. « Eh oui, n'est-ce pas? Ça ne va pas comme vous voulez, mais ça vous apprendra. Et ta femme, tes enfants » a-t-il interrompu. « Tout cela se porte-t-il bien ?»« Parfaitement. Des appétits d'enfer, voilà tout. » « Tiens, dit le roi, tu leur feras ce cadeau de ma part. » Il a fouillé dans ses poches, dans toutes, et il a réuni 9 louis. « C'est tout ce que j'ai sur moi, mon pauvre gamin, » a-t-il dit, « et je suis tout honteux de te faire un si triste présent. » En effet, vous en conviendrez, il y a de quoi être honteux. Un roi qui n'a que 9 louis dans ses poches, un roi qui fait à un camarade, à un ami, un cadeau de 9 louis. Aussi, avez-vous refusé? Oh non, j'ai dit, il faut toujours prendre. Il rencontrerait un moins honteux qui les accepterait. Mais c'est égal, il peut être bien tranquille, je ne remettrai pas les pieds à Versailles qu'il ne m'envoie chercher. Et encore, et encore. Cœur reconnaissant, murmura l'inconnu. Vous dites? Je dis que c'est attendrissant, maître gamin, de voir un dévouement comme le vôtre survivre à la mauvaise fortune. Un dernier verre de vin, à la santé de votre élève. Ah, ma foi, il ne le mérite guère, mais qu'importe, à sa santé tout de même. Il but. Et quand je pense, continua-t-il, qu'il y en avait dans ces caves plus de 10 000 bouteilles, dont le moins bon valait 10 fois mieux que celui-ci, et qu'il n'a jamais dit à un valet de pied, « Un tel, prenez un panier de vin et portez-le chez mon bon ami gamin. » Ah oui, il a mieux aimé le faire boire par ses gardes du corps, par ses Suisses et par ses soldats du régiment de Flandre. Ça lui a bien réussi. « Que voulez-vous ? » dit l'inconnu en vidant son verre à petits coups. « Les rois sont ainsi, des ingrats. Mais chut, nous ne sommes plus seuls. » En effet, 3 individus, 2 hommes du peuple et une poissarde, venaient d'entrer dans le même cabaret et s'étaient assis à la table faisant le pendant de celle où l'inconnu achevait de vider sa seconde bouteille avec maître Gamin. Le serrurier jeta les yeux sur eux et les examina avec une attention qui fit sourire l'inconnu. En effet, ces trois personnages nouveaux semblaient dignes de quelque attention. Des deux hommes, l'un était tout torse, l'autre était tout jambe. Quant à la femme, il était difficile de savoir ce qu'elle était. L'homme qui était tout torse ressemblait à un nain. À peine atteignait-il une taille de 5 pieds. Peut-être aussi perdait-il un pouce ou deux de sa hauteur au fléchissement de ses genoux qui, lorsqu'il était debout, se touchaient à l'intérieur malgré l'écartement de ses pieds. Son visage, au lieu de relever cette difformité, semblait la rendre plus sensible encore. Ses cheveux, gras et sales, s'aplatissaient sur un fond déprimé. Ses sourcils, mal dessinés, semblaient avoir été ressortis par hasard, et les yeux étaient vitreux dans l'état habituel, ternes et sans flamme, comme ceux d'un crapaud. Seulement, dans les moments d'irritation, il jetait une étincelle pareille à celle qui jaillit de la prunelle contractée d'une vipère furieuse. Son nez était aplati et, déviant de la ligne droite, faisait d'autant plus ressortir la proéminence des pommettes de ses joues. Enfin, complétant ce hideux ensemble, sa bouche tordue recouvrait de ses lèvres jaunâtres quelques dents rares, branlantes et noires. Cet homme, au premier abord, semblait avoir dans les veines du fiel au lieu de sang. Le second, l'opposé du premier, dont les jambes étaient courtes et tordues, semblait au contraire comme un héron monté sur une paire d'échasses. Sa ressemblance avec l'oiseau auquel nous venons de le comparer était d'autant plus grande que, bossu comme lui, sa tête complètement perdue entre ses deux épaules ne se faisait distinguer que par deux yeux qui semblaient des taches de sang et par un nez long et pointu comme un bec. Comme un héron encore, on eût cru au premier moment qu'il avait la faculté de distendre son cou en façon de ressort et d'aller éborgner à distance l'individu auquel il aurait voulu rendre ce mauvais office. Mais il n'en était rien. Ses bras seuls semblaient doués de cette élasticité refusée à son cou, et, ainsi comme il l'était, il n'eut qu'à allonger le doigt, sans incliner le moins du monde son corps, pour ramasser un mouchoir qu'il venait de laisser tomber après avoir essuyé son front mouillé à la fois de sueur et de pluie. Le troisième, ou la troisième, comme on voudra, était un être amphibie, dont on pouvait bien reconnaître l'espèce, mais dont il était difficile de distinguer le sexe. C'était un homme ou une femme, de 30 à 34 ans, portant un élégant costume de poissarde, avec chaîne d'or et boucles d'oreilles, bavolet et mouchoir à dentelle. Ses traits, autant qu'on pouvait les distinguer à travers la couche de blanc et de rouge qui les couvrait, à travers les mouches de toutes formes qui constellaient cette couche de rouge et de blanc, étaient légèrement effacés, comme on les voit chez les races abâtardies. Une fois qu'on l'avait vu, une fois qu'à son aspect on était entré dans le doute que nous venons d'exprimer, on attendait avec impatience que sa bouche s'ouvrît pour prononcer quelques paroles, car on espérait que le son de sa voix donnerait à toute sa personne douteuse un caractère à l'aide duquel il serait possible de le reconnaître. Mais il n'en était rien. Sa voix, qui semblait celle d'un soprano, laissait le curieux et l'observateur plus profondément encore plongé dans le doute éveillé de sa personne. L'oreille n'expliquait point l'œil, l'ouïe ne complétait pas la vue. Les bas et les souliers des deux hommes, ainsi que les souliers de la femme, indiquaient que ceux qui les portaient traînaient depuis longtemps dans la rue. « C'est étonnant, dit Gamin, il me semble que voilà une femme que je connais. Soit, mais du moment que ces trois personnes sont ensemble, mon cher monsieur Gamin, dit l'inconnu en prenant son fusil et en enfonçant son bonnet sur l'oreille, c'est qu'elles ont quelque chose à faire, il faut les laisser ensemble. « Vous les connaissez donc ?» demanda Gamin. « Oui, de vue, » répondit l'inconnu. « Et vous ?»« Moi, je répondrai que j'ai vu la femme quelque part. »« À la cour, probablement, » dit l'inconnu. « Ah ben oui, une poissarde. Elles y vont beaucoup depuis quelque temps. Si vous les connaissez, nommez-moi donc les deux hommes, ça m'aidera bien certainement à connaître la femme. »«
Les deux hommes ?»«
Oui. Voulez-vous que je vous nomme le premier ?»
Le bancal.
Jean-Paul Marat.
Après,
le bossu.
Prosper Verrière.
Eh bien, cela vous met-il sur la trace de la poissarde?
Ma foi, non.
Cherchez. Je donne ma langue au chien.
Eh bien, la poissarde. Attendez. Mais non, mais si, mais non. Si fait. C'est impossible. Oui, cela a l'air impossible au premier abord. C'est. Allons, je vois bien que vous ne la nommerez jamais et qu'il faut que je la nomme. La poissarde, c'est le duc d'Aiguillon. À ce nom prononcé, la poissarde tressaillit et se retourna ainsi que les deux autres hommes. Tous trois firent un mouvement pour se lever, comme on ferait devant un chef à qui l'on voudrait marquer sa déférence. Mais l'inconnu mit son doigt sur ses lèvres et passa. Gamin le suivit, croyant qu'il rêvait. À la porte, il fut heurté par un individu qui semblait fuir, poursuivi par des gens qui criaient « Le coiffeur de la reine ! Le coiffeur de la reine !» Parmi ces gens, courant et criant, il y en avait deux qui portaient chacun une tête sanglante au bout d'une pique. C'étaient les têtes des deux malheureux gardes, Varicourt et Déhutte, qui, séparés du corps par un modèle nommé le Grand Nicolas, avaient été placées chacune au bout d'une pique. Cette tête, nous l'avons dit, faisait partie de la troupe qui courait après le malheureux que venait de heurter Gamin. « Tiens, monsieur Léonard, dit celui-ci. « Silence, ne me nommez pas !» s'écria le coiffeur en se précipitant dans le cabaret. « Que lui veulent-ils donc ? » demanda le serrurier à l'inconnu. « Qui sait ? » répondit celui-ci. « Ils veulent peut-être lui faire friser les têtes de ces pauvres diables. On a de si singulières idées en temps de révolution. » Et il se confondit dans la foule, laissant Gamin, dont, selon toute probabilité, il avait tiré tout ce dont il avait besoin, regagner, comme il l'entendait, son atelier de Versailles.